Chapitre 6. Le géant redevenait homme, pauvre corps courbé par la vieillesse et par la gloire, usé par la passion, mourant. Estelio réentendit en lui-même les paroles de Perdita, qui avait changé la gondole en un cercueil, les paroles qui évoquaient un autre grand artiste frappé, le père de Donatella Valle. L'arc a pour nom Bios et pour œuvre la mort. Le jeune homme voyait devant lui le chemin marqué par la victoire, l'arc si long, la vie si brève. En avant, plus haut, toujours plus haut. À chaque heure, à chaque minute, il fallait essayer, lutter, se fortifier contre la destruction, la diminution, l'oppression, la contagion. À chaque heure, à chaque minute, il fallait tenir l'œil fixé sur le but, concentrer et diriger là toutes ses énergies, sans trêve, sans défaillance. Il sentait que la victoire lui était aussi nécessaire que l'air à ses poumons. Au contact du barbare, une furieuse volonté de lutte s'éveillait dans cet agile sang latin. « À vous maintenant de vouloir !» avait crié Wagner le jour où avait été inaugurée la scène du Théâtre Nouveau. Dans l'œuvre d'art de l'avenir, la source de l'invention ne tarira plus jamais. L'art était infini comme la beauté du monde. Pas de limite pour la force et pour l'audace. Cherchez, trouvez, plus loin, toujours plus loin. En avant, en avant. Alors un seul flot, énorme et informe, résuma toutes les aspirations et toutes les angoisses de ce délire, se creusa comme un gouffre, se dressa comme un tourbillon, se condensa, prit la qualité de la matière plastique, obéit à la même énergie inépuisable qui, sous le soleil, façonne les animaux et les choses. Une image extraordinairement belle, et pur, naquit de ce travail, vécu et resplendit avec une insoutenable intensité. Le poète la vit, la reçut dans ses yeux purs, sentit qu'elle prenait racine au centre de son esprit. Ah, l'exprimer, la manifester aux hommes, la fixer dans sa perfection pour l'éternité. Moment sublime et sans retour. Tout disparut. Autour de lui coulait la vie journalière, autour de lui résonnaient les paroles fugitives, l'attente palpitait, le désir se consumait. Et il regarda la femme. Les astres scintillaient. Derrière la tête de Perdita, les arbres ondulaient, un jardin s'approfondissait. Les yeux de la femme disaient encore « servir, servir ». Descendus au palais jardin, les hôtes s'étaient dispersés dans les allées sous les berceaux. La brise de la nuit était si tiède et si humide que les paupières délicates la sentaient sur leurs cils comme une caresse de lèvres qui effleurent. Les étoiles cachées des jasmins embaumaient dans l'ombre, et les fruits aussi embaumaient comme dans les vergers des îles, mais plus lourdement. Une force vive de fertilité émanait de cet endroit et de cet étroit espace de terre végétale qui semblait en exil, resserré dans sa ceinture d'eau. C'est ainsi que l'âme exilée se fait plus intense. Voulez-vous que je reste? Voulez-vous que je revienne quand les autres seront partis? Dites, il est tard. Non, Stelio, non, je vous en prie. Il est tard, il est trop tard, c'est vous-même qui le dites. La voix de la Foscarina était pleine d'une mortelle frayeur. Les épaules nues, les bras nus, elle tremblait dans l'ombre. Elle voulait encore se refuser, elle voulait être possédée, et elle voulait mourir et elle voulait être secouée par ses mains fortes. Elle tremblait. Ses dents tremblaient dans sa bouche. Un fleuve sorti d'un glacier la submergeait, passait sur elle, l'engourdissait depuis la racine des cheveux jusqu'au bout des doigts. Toutes les jointures de ses membres lui faisaient mal et semblaient sur le point de se délier. Et dans sa terreur, ses mâchoires raidies lui faisaient une autre voix. Et elle voulait mourir, et elle voulait être vaincue. Et sur sa frayeur et sur son transissement, et sur sa chair qui n'était plus jeune, était suspendue la parole atroce que l'aimé lui-même avait proférée, qu'elle-même avait répétée. Oh, il est tard, il est trop tard. Votre promesse, je ne veux plus attendre, Perdita, je ne le peux plus. Le bassin maritime, voluptueux comme une gorge qui s'offre, l'estuaire perdu dans l'ombre et dans la mort, la cité allumée par la fièvre crépusculaire, l'eau coulant dans la clepsydre invisible, le bronze vibrant dans le ciel, le désir suffocant, les lèvres serrées, les paupières baissées, les mains arides, tout devint dans son esprit avec le souvenir de la muette promesse. Sauvage fut l'ardeur dont il convoita cette chair profonde. Non, non, je ne peux plus attendre. Elle lui venait de loin, de très loin, cette ardeur, des plus antiques origines de la primitive animalité, des unions soudaines de l'antique mystère, des fureurs sacrées. De même que la troupe envahie par le dieu descendait le long de la montagne en déracinant les arbres et s'avançait avec une fougue de plus en plus aveugle et sans cesse grossie de nouveaux éléments, propageait la folie partout sur son passage et devenait même enfin une immense multitude bestiale et humaine, frémissant d'une volonté monstrueuse. De même en lui, cet instinct cruel se précipita, confondant et entraînant toutes les idées de son esprit avec une agitation vertigineuse. Et dans la femme nomade et désespérée, ce qu'il désira, ce fut l'être opprimé par l'éternelle servitude de sa nature, l'être destiné à succomber aux subites convulsions de son sexe, l'être qui apaisait la fièvre lucide de la scène dans la volupté somnifère, l'actrice ardente qui passait de la frénésie de la foule à la force du mal, la créature dionysiaque qui, comme dans l'orgie, couronnait par l'acte de vie le rite nocturne. Son désir fut insensé et sans mesure, fait de cruauté, de rancune, de jalousie, de poésie et d'orgueil. Il regretta de n'avoir pas possédé l'actrice après un triomphe scénique, chaude encore du souffle populaire, couverte de sueur, haletante et défaillante avec les vestiges de l'homme tragique qui avait pleuré et crié en elle, avec les larmes de cette âme étrangère encore humide sur son visage contracté. Dans un éclair, il la vit abattue, pleine de la puissance qui avait arraché le hurlement au monstre, palpitante comme la ménade après la danse assoiffée, hélas. « Ne soyez pas cruelle, ne soyez pas cruelle !» supplia cette femme, qui sentait dans la voix, qui lisait dans les yeux de l'âme l'horrible vertige. « Oh, ne me faites pas de mal !» Sous le regard vorace du jeune homme, toute sa chair se contractait une fois encore, se refusant avec une pudeur douloureuse. Le désir de Stelio la frappait, la déchirait comme une blessure. Elle connaissait tout ce qu'il y avait d'âcre et d'impur dans cette excitation soudaine, et combien profondément il la jugeait empoisonnée et corrompue, chargée d'amour, tentatrice errante et implacable. Elle devinait cette rancune, cette jalousie, cette mauvaise fièvre qui tout d'un coup s'était rallumée chez le doux ami auquel depuis si longtemps elle avait voué tout ce que son être contenait de plus précieux et de plus sincère, préservant la bonté de ses offrandes par l'opiniâtreté de sa défense. Tout était perdu désormais, tout était subitement dévasté, ainsi qu'un beau domaine à la merci d'esclaves rebelles et vindicatifs. Et alors, comme si elle eût souffert les affres de l'agonie, comme si elle eût été à l'instant du trépas, elle revit toute son existence âpre et orageuse, sa vie de lutte et de douleur, d'écarements et d'efforts, de passion et de triomphe. Elle en sentit le fardeau, l'encombrement. Elle se rappela l'ineffable sentiment de joie, d'épouvante et de libération lorsqu'elle avait éprouvé au moment où elle s'était pour la première fois abandonnée à l'homme qu'il avait aimé dans sa lointaine adolescence. Et à travers son âme éperdue, passa l'image de la Vierge qui s'était retirée, qui avait disparu, qui rêvait peut-être là-haut dans sa chambre solitaire, ou qui pleurait, ou qui déjà se promettait et déjà sur l'oreiller pur goûtait le bonheur de s'être promise. Il est trop tard, il est trop tard. L'irrévocable parole passait continuellement sur son front comme la vibration du bronze. Et le désir de l'aimer la frappait, la déchirait comme une blessure. Oh, ne me faites pas de mal. Elle suppliait, blanche et frêle, comme le duvet de cygne qui courait autour de ses épaules nues et de sa poitrine palpitante. Il semblait qu'elle se dépouillât de sa puissance et qu'elle devint légère et faible, qu'elle se revêtit d'une âme secrète et tendre, si facile à tuer, à détruire, à immoler sans effusion de sang. « Non, Perdita, je ne vous ferai aucun mal, » balbutia-t-il. Bouleversé par cette voix et par cet aspect, pris aux entrailles par une pitié humaine qui remontait les mêmes profondeurs d'où lui était venu cet instinct sauvage, « Pardonnez-moi, pardonnez-moi !» Il aurait voulu la tenir entre ses bras, la bercer, la consoler, l'entendre pleurer, boire ses larmes. Il lui semblait qu'il ne la reconnaissait pas, qu'il avait devant lui une créature non connue, infiniment humble et douloureuse, privée de toute force. Sa pitié, son remords étaient un peu semblables à l'émotion que l'on éprouve après avoir heurté et blessé, sans le vouloir, un malade, un enfant, un petit être inoffensif et seul. Pardonnez-moi. Il aurait voulu s'agenouiller, lui baiser les pieds dans l'herbe, lui dire quelques paroles câlines. Il s'inclina, lui toucha une main. Elle tressaillit de la tête jusqu'au talon. Elle ouvrit sur lui de larges yeux, puis elle rabaissa les paupières, demeura immobile. L'ombre s'accumula sous l'arc de ses sourcils, dessina l'ondulation de ses joues. De nouveau, le fleuve glacé la submergeait. On entendit les voix des hôtes épars dans le jardin, puis il se fit un grand silence. On entendit crier le sable sous des pas, puis il se fit encore un grand silence. Une clameur confuse arriva du lointain sur les canaux. Les jasmins parurent verser une odeur plus forte, tel un cœur accélère ses palpitations. La nuit parut grosse de prodiges. Les forces éternelles opéraient harmonieusement entre la terre et les étoiles. Pardonnez-moi, si mon désir vous cause une souffrance, je l'étoufferai encore, je serai capable encore de renoncer, de vous obéir, Perdita. Perdita, j'oublierai tout ce que vos yeux me disaient là-haut parmi les vaines paroles. Quelle étreinte, quelle caresse pourrait nous unir plus intimement? Toute la passion de la nuit nous jetait l'un vers l'autre, et moi je vous ai reçu toutes comme une onde. Et maintenant, il me semble que je ne pourrai plus vous séparer de mon sang, et que vous ne pourriez plus vous éloigner de moi, et que nous devrions aller ensemble à la rencontre de je ne sais quelle aurore. Il lui parlait à voix basse avec une entière effusion, devenu comme une substance vibrante où semblaient s'imprimer toutes les transmutations de la créature nocturne. Ce qu'il voyait devant lui, ce n'était plus une forme corporelle, une chair opaque et impénétrable, la pesante prison humaine. C'était une âme dévoilée par une succession d'apparences non moins expressives que des mélodies, une sensibilité infiniment délicate et puissante qui, dans cette enveloppe, créait tour à tour la ténuité des fleurs, la vigueur du marbre, l'éclat de la flamme, toutes les ombres et toutes les lumières. « Stelio !» À peine le prononça-t-elle ce nom. Et toutefois, dans ce soulier qui mourait sur ses lèvres blêmes, il y avait une immensité d'exultation et d'émerveillement comme dans le cri le plus aigu. À l'accent viril, elle avait reconnu l'amour, l'amour, l'amour. Elle qui tant de fois avait écouté les belles et parfaites paroles prononcées par cette voix limpide et qui en avait étrangement souffert comme d'un supplice et d'un jeu, elle voyait maintenant sa vie et le monde se transfigurer tout à coup à cet accent nouveau. Son âme parut chavirer. Ce qui l'encombrait tomba au fond dans une obscurité sans limite. Et il vint à la surface quelque chose de libre et d'immaculé qui se dilata, qui se courba comme un ciel matinal. Et de la même façon que le flot de la lumière monte depuis l'horizon jusqu'au zénith avec une muette harmonie, l'illusion du bonheur monta jusqu'à sa bouche. Un sourire s'y prolongea, infini, où les lignes de ses lèvres tremblaient comme les feuilles dans la brise, où ses dents luisaient comme les jasmins dans la clarté stellaire. Tout est aboli, tout est évanoui. Je n'ai pas vécu, je n'ai pas aimé, je n'ai pas souffert. Je suis nouvelle, je ne connais que cet amour, je suis pure. Je veux mourir dans la volupté à laquelle tu m'initieras. Les années et les événements ont passé sur moi, sans atteindre cette partie de mon âme que je te réservais, ce ciel secret qui vient de s'ouvrir à visite, l'improviste et qui a triomphé de toutes les ombres et qui est demeuré seul pour contenir la force et la douceur de ton nom. Moi, ton amour me sauve, et toi, l'entier embrassement de mon amour te fera divin. Des paroles d'ivresse jaillissaient de ce cœur délivré, mais ses lèvres n'osaient pas les dire. Et elle souriait, souriait de son sourire infini, en silence. N'est-il pas vrai? Répondez, Perdita. Ne la sentez-vous pas aussi, cette nécessité qui est forte de tout le renoncement, de toute notre constance à atteindre la plénitude de l'heure? Ah, il me semble que mes espoirs, mes pressentiments ne seraient plus rien si cette heure n'allait pas venir. Dites que vous ne pourriez l'atteindre sans moi, cette aurore, comme je ne pourrais l'atteindre sans vous. Dites ! Oui, oui. Dans cette syllabe étouffée, éperdument, elle se donna. Son sourire s'éteignit, sa bouche devint lourde, se détacha sur sa pâleur avec un relief presque dur, comme gonflé par la soif, forte pour attirer, pour prendre, pour retenir, inassouvie. Et tout ce corps, qui naguère s'atténuait dans la douleur et dans la terreur, se redressa comme s'ils y croissaient tout à coup une ceinture neuve, recouvra sa puissance charnelle, puis traversé par une onde impétueuse, il redevint désirable et impur. Plus de délai, il est tard. Il frissonnait d'impatience, sa furie le reprenait, le désir le ressaisissait à la gorge avec ses griffes félines. Oui, répéta la Foscarina, mais avec un autre accent, les yeux dans les yeux de Stelio, avide et impérieuse, comme si maintenant elle était certaine de posséder le philtre qui finalement devait le lier à elle. Il sentit pénétrer dans son cœur les voluptés qui habitaient cette chair profonde. Il la regarda, pâle comme si tout son sang se perdait dans la terre, pour aller baigner les racines des fruits, en rêve, hors du temps, lui seul, avec elle seule. Elle était sous l'arbuste ornée de colliers et chargée de fruits, arquée tout entière à l'image de ses lèvres. Et comme s'exhale des lèvres la laine, la fièvre s'exhalait de tous ses membres. La beauté soudaine qu'il avait illuminée dans le cénacle, faite de mille forces idéales, réapparaissait en elle, mais avec plus d'intensité encore, faite à présent de la flamme qui ne se flétrit pas, de la ferveur qui ne languit jamais. Les fruits magnifiques pendaient sur sa tête, portant à leur sommet la couronne d'un roi donateur. Le mythe de la grenade revivait dans la nuit comme au passage de la barque sur l'eau crépusculaire. Qui était cette femme? Était-ce Perséphone, reine des ombres? Avait-elle vécu là où toutes les agitations humaines paraissent un jeu des vents dans la poussière d'une roule sans fin? Avait-elle contemplé le monde des sources? Compter sous la terre les racines des fleurs immobiles comme les veines dans un corps pétrifié? Était-elle lasse ou ivre des larmes et des rires et des luxures humaines, et d'avoir touché une à une toutes les choses mortelles pour les faire fleurir, pour les faire périr? Qui était-elle? Avait-elle frappé les villes comme un fléau, scellé pour toujours sous son baiser les lèvres qui chantaient? Arrêter les battements d'une âme tyrannique, intoxiquer les jeunes hommes avec sa sueur salée comme l'écume de la mer. Mais qui était cette femme? Quel était le passé qui la rendait si blême, si brûlante et si périlleuse? Avait-elle déjà dit tous ses secrets et donné tous ses dons? Ou bien pouvait-elle encore émerveiller par de nouvelles œuvres son nouvel amant, pour qui la vie, le désir et la victoire étaient une seule et même chose? Tout cela, et davantage encore, répondait aux rêves du poète les petites veines de ses tempes et l'ondulation de ses joues, la puissance de ses flancs, l'ombre glauque et presque marine où vivait ce visage comme l'œil vit dans sa propre humidité. Tout le mal, tout le bien, ce que je sais, ce que j'ignore, ce que tu sais, ce que tu ignores, tout a préparé la plénitude de notre nuit. La vie et le rêve ne faisaient qu'un. Les sens et les pensées étaient comme des vins mêlés dans une seule coupe. Les vêtements, le visage nu, les espérances, les regards étaient semblables aux plantes de ce jardin, à l'air, aux étoiles, au silence. Moment sublime et sans retour. Avant que l'âme fût complice, les mains firent le geste qui attire. La femme renversa la tête dans l'ombre comme pour s'abattre. Entre ses paupières qui nouraient, la blancheur de ses yeux, la blancheur de ses dents, brillèrent comme les choses qui brillent pour la dernière fois. Puis rapidement, sa tête se redressa, se ranima. Ses lèvres cherchèrent les lèvres qui les cherchaient. Jamais sceau ne fut plus fort. Comme les branches de l'arbuste, l'amour couvrit les deux êtres enivrés. Ils se délièrent. Ils se regardèrent fixement, sans se voir. Ils ne voyaient plus rien. Ils étaient aveugles. Ils entendaient un bruit terrible, comme si le frémissement du bronze se fût réveillé à l'intérieur de leur front même. Toutefois, ils purent distinguer le heurt sourd d'un fruit qui, de la branche qu'ils avaient secouée dans leur étreinte, tombait sur l'herbe. Ils sortirent comme d'un lourd nuage. Ils se revirent. Ils redevinrent lucides. Ils perçurent les voix habillées éparses dans le jardin, la confuse clameur qui s'éloignait sur les canaux où repassaient peut-être les anciens cortèges. « Eh bien ?» demanda le jeune homme fiévreusement, brûlé jusqu'au moelle par ce baiser de chair et d'âme. Elle se baissa pour ramasser la grenade sur l'herbe. Le fruit était mûr, il s'était couvert dans sa chute, et par la fente versait son sang. Avec la visure de la barque chargée et le fil pâle et de la prairie d'Asphodel, se représentèrent à l'esprit de l'amante les paroles de l'animateur. « Ceci est mon corps, prenez et mangez. Dites oui. » D'un mouvement machinal, elle serra le fruit dans son poing, comme si elle voulait en exprimer le suc. La liqueur coula, mouilla son poignet. Elle tremblait, ses dents tremblaient dans sa bouche. Le fleuve la submergeait de nouveau, passait sur elle, la glaçait depuis la racine des cheveux jusqu'au bout des doigts. « Et comment, dites ?» insista le jeune homme avec une sorte de brutalité, car il sentait renaître sa démence. « Partez avec les autres et revenez ensuite. Je vous attendrai à la grille du jardin Gradenigo. » Elle tremblait toute d'une frayeur charnelle en proie à la force invincible. Dans son éclair, il la vit renversée, couverte de sueur, palpitante comme la ménode après la danse. Ils se regardèrent encore, mais ne purent supporter le regard sauvage de leur convoitise. Ils souffrirent et ils se quittèrent. Elle s'en alla vers les voix des poètes qui avaient exalté sa puissance idéale. Perdue, perdue, elle était perdue maintenant. Elle vivait encore, défaite, humiliée, blessée, comme si on l'eût piétinée sur elle impitoyablement. Elle vivait encore, et l'aube se levait, et les jours recommençaient, et la fraîche marée refluait dans la cité belle, et Donatella reposait sur son oreiller pur. En un lointain indéfini s'effaçait l'heure, si proche pourtant, où elle avait attendu l'aimé à la grille, perçu les pas dans le silence funèbre du quai désert, sentit ses genoux ployer comme sous un choc et sa tête se remplir du terrible bourdonnement. Oh, comme elle était loin, cette heure-là. Et pourtant, dans sa chair, sous le frisson que lui avait laissé la fièvre nocturne, elle gardait avec une étrange intensité les sensations de l'attente, le froid du fer où s'était appuyé son front, l'âcreté suffocante qui montait des herbes comme d'un routoir, la langue tiède des lévriers de Lady Myrta qui était venue sans bruit lui lécher les mains. Adieu, adieu. Elle était perdue. Il s'était élevé de son lit comme du lit d'une courtisane, devenu presque étranger, presque impatient, attiré par la fraîcheur de l'aube, par la liberté du matin. Adieu. De la fenêtre, elle aperçut au bord du canal Stelio qui respirait à plein poumon l'air vif. Et puis, dans le grand calme, elle entendit sa voix limpide et sûre qui appelait le gondolier « Zorzi !» L'homme dormait au fond de la gondole, immobile, et son sommeil humain ressemblait à celui de l'esquif recourbé qui lui obéissait. Stelio l'ayant touché du pied, il se réveilla en sursaut, bondit à la poupe et empoigna la rame. L'homme et la barque s'étaient réveillés en même temps, comme s'ils n'eussent fait qu'un seul corps, prêts tous les deux à courir sur l'eau. « Servo suo, pardon !» dit Zorzi avec un sourire en regardant le ciel qui s'éclairait. Voilà, asseyez-vous là, c'est moi maintenant qui vais voguer. En face du palais, la porte d'un atelier s'ouvrit. C'était un atelier de tailleur de pierre où l'on fabriquait des marches avec la pierre de Valdisole. Montez, pensa Stelio, et son cœur superstitieux se réjouit de ce bon augure. Sur l'enseigne, le long de la carrière lui sembla rayonnant. Déjà tout à l'heure, n'avait-il pas vu l'image de l'escalier, symbole de sa propre ascension dans les armoiries des Granenico? Ce plus haut, toujours plus haut. La joie repululait au fond de son être. Le matin excitait l'activité humaine. Et Perdita, et Ariane. Il revit en haut de l'escalier mormoréen, dans la lumière des torches fumeuses, si serrée au milieu de la presse qu'elle se confondait en une même blancheur, les deux tentatrices qui sortaient ensemble de la foule comme de l'embrassement d'un monstre. Et la Tanagra, la syracusaine aux longs yeux de chèvre, lui apparut au repos, unie à la terre maternelle comme la figure d'un bas-relief au plan où elle est sculptée. La trinité dionysiaque. Il se les figurait exempte de toute passion, indemne de tout mal, comme sont les créatures de l'art. La surface de son âme se couvrait d'images splendides et rapides comme une mer parsemée de voiles. Son cœur ne souffrait plus. Une âpre sensation de nouveauté se répandait par toute sa substance avec la subdiffusion de la lumière. La chaleur de la fièvre nocturne se dispersait entièrement dans la brise et les vapeurs se dissipaient. Il arrivait en lui ce qui arrivait autour de lui, il renaissait avec le matin. « Adesso lo serve bien che ti fa zi chiaro !» murmura le rumeur rameur avec malice en éteignant le fanal de la gondole. « Au grand canal, par San Giovanni de Collato !» lui cria Stelio en s'asseyant. Et tandis que la proue dentelée virait vers le Rio di San Giacomo dal Rio, il se tourna pour regarder le palais qui, dans l'ombre, avait une couleur de plomb. Une fenêtre éclairée sentait les bras comme un œil qui devient aveugle. Adieu, adieu. Son cœur eut un sursaut. La volupté afflua de nouveau dans ses veines. Les images de la douleur et de la mort effacèrent toutes les autres. La femme, qui n'était plus jeune, restait là-bas, seule, pareille à une agonisante. La vierge inviolée s'apprêtait à regagner le lieu de son supplice. Il ne sut pas compatir, il ne sut qu'espérer. De l'abondance de sa force, il tira l'illusion qu'il pourrait changer ses deux destins au profit de sa joie. Son cœur ne souffrait plus. Toute son anxiété fuyait devant le plaisir simple que donnaient à ses yeux les spectacles du matin. La pâleur de Perdita lui fut cachée par les feuillages qui débordaient sur les murs des jardins où déjà s'éveillait le gazouillement des moineaux. Dans les ondulations du canal se perdirent les lèvres sinueuses de la cantatrice. Il arrivait en lui ce qui arrivait autour de lui, l'arche et l'écho des ponts, les algues flottantes, le gémissement des colombes était comme sa respiration, sa confiance et sa fin. « Arrête-toi devant le palais Vendramia Caliergi !» ordonna-t-il au rameur. En longeant le mur du jardin, il attrapa au passage quelques fleurs poussées dans les interstices de la brique, un endroit où elle avait la sombre et riche couleur du sang caillé. C'étaient des fleurs violettes, d'une extrême délicatesse, presque impalpable. Il pensa aux myrtes qui verdoient sur les bords du golfe d'Égine, rudes et fières comme des buissons de bronze. Il pensa aux petits cyprès noirs qui couronnent les cimes pierreuses des collines toscanes, aux grands lauriers qui protègent les statues dans les villas de Rome. Par ses pensées, il accrut la valeur des fleurettes automnales, offrande trop modeste pour celui qui avait su donner à sa vie la grande victoire qu'il lui avait promise. Accoste ! Le canal, antique fleuve de silence et de poésie, était désert. Le ciel verdâtre s'y reflétait avec ses étoiles mourantes. Au premier aspect, le palais avait une apparence aérienne comme d'un nuage ouvragé qui poserait sur l'eau. L'ombre où il baignait encore avait la qualité du velours, la beauté d'une chose magnifique et molle. Et de même qu'en un velours profond se découvrent à l'œil les dessins des ramages, de même, lentement, les tiges de l'architecture se révélèrent dans les trois colonnades corinthiennes qui montaient avec un rythme de grâce et de force jusqu'au faîte, où les aigles, les coursiers, les amphores, emblèmes de la vie noble, s'entremêlaient aux roses des Loredanes. Non nobis nomine, non nobis, ne sont pas pour nous, Seigneur, ne sont pas pour nous. Là palpitait le grand cœur maladroit. Et malade. L'image du créateur barbare apparut. Les yeux d'azur brillèrent sous le front vaste, les lèvres se serrèrent sur ce robuste menton, armé de sensualité, d'orgueil et de mépris. Dormait-il ? Pouvait-il dormir ? Ou bien, comme sa gloire, était-il sans sommeil ? Le jeune homme repensa aux choses étranges qu'il avait entendu raconter de lui. Était-ce vrai qu'il ne pouvait dormir sinon sur le cœur de sa femme, dans l'étroit embrassement de sa femme, et que malgré la vieillesse, il gardait le persistant besoin de ce contact amoureux ? Il repensa au récit de Lady Myrta, qui avait visité à Palerme la villa d'Angri, où les armoires de la chambre habitée par le maître s'étaient imprégnées d'une essence de rose si violente qu'elle donnait encore le vertige. Il vit ce petit corps-là, vêtu de draps somptueux, orné de bijoux, parfumé comme un cadavre prêt pour le bûcher. N'était-ce pas Venise qui lui avait donné, comme jadis à Albert Durer, le goût des voluptés et des magnificences ? Oui, c'était dans le silence des canaux qu'il avait entendu passer le souffle le plus ardent de ses musiques, la mortelle passion de Tristan et d'Iseute. Et c'était là, maintenant, que palpitait ce grand cœur malade. C'était là que venait s'arrêter l'élan formidable. Le palais patricien, avec ses aigles, avec ses coursiers, avec ses amphores, avec ses roses, était close et muet comme un haut sépulcre. Au-dessus de ce marbre, l'aurore enflamme le ciel. Salut aux victorieux ! Estelio jeta les fleurs sur le seuil de la porte. En avant, en avant ! Stimulé par cette brusque impatience, le rameur se courba sur la rame. Le frôle esquive glissa sur l'eau. Tout le canal était clair d'un côté. Une voile fauve courait sans bruit. La mer, les flots soyeux, les rires des mouettes, la brise du large se représentèrent à son désir. « Rame, Zorzi, à la Veneta Marina, par le Rio dell'Olio !» s'écria le jeune homme. Le canal lui semblait trop étroit pour le souffle de son âme. Désormais, la victoire ne lui était pas moins nécessaire que l'air à ses poumons. Après le délire nocturne, il voulait, à la lumière du matin et à l'âcreté de la brise marine, reconnaître la bonté de sa trempe. Il n'avait pas sommeil. Il sentait autour de ses yeux un cercle de fraîcheur, comme s'il les eût lavés dans la rosée. Il n'éprouvait aucun besoin de repos, mais la couche de l'autel lui faisait horreur comme un ignoble grabat. Le pont d'une barque, l'odeur du goudron et du sel, le battement d'une voile rouge. Allez, rames, Zorzi ! La vigueur du gondolier redoubla. Par moments, sous les feux, la fourche grinçait. Le fondatco dei Turchi disparut derrière eux, ivoire merveilleusement jauni et usé, semblable au portique survivant d'une mosquée en ruine. Ils dépassèrent le palais des Cornaro et le palais des Pesaro, ces deux colosses noircis par le temps comme par la fumée d'un incendie. Ils dépassèrent la Cadoro, jeu divin de la pierre et de l'air, et soudain le pont du Rialto montra son ample dos chargé de boutiques, déjà tout bruyant de vie populaire, fleurant les légumes et le poisson, pareil à une grande corne d'abondance qui verserait sur les quais d'alentour les nourritures terrestres et marines destinées à rassasier la cité reine. « J'ai faim, Zorzi, j'ai grand faim !» dit Stelio en riant. « Bon seigneur, con la notorada da fame, c'est al vecchi di la che fa sonno. Allez, accoste !» Il acheta dans une péotte le raisin des vignobles et les figues de Malamocco, mis ensemble sur un plat de pampres. « Allez, rame !» Sous le fondaco dei Tedeschi, la gondone vira, puis, par les petits canaux obscurs, elle glissa vers le Rio di Palazzo. Les cloches de San Giovanni Crisostomo, de San Giovanni Elemosinario, de San Cassiano, de Santa Maria dei Maia Colli, de Santa Maria Formosa, de San Lio, accueillaient l'aurore par de joyeux carillons. Les bruits du marché se perdaient dans la salutation des bronzes, avec les odeurs de la pêche, des herbages et du vin. Entre les murailles de marbre et de briques encore endormies, sous le ruban du ciel, resplendissait de plus en plus le ruban de l'eau qui, tranché par le fer de la proue, s'allumait dans la course. Et ce croissant éclat donnait à Stelio l'illusion d'une rapidité flamboyante. Il songea au lancement des navires qui descendent vers la mer en faisant jaillir des flammes sous le frottement de la carène. L'eau fume alentour, le peuple acclame et applaudit. Au pont de la paille ! Une pensée, spontanée comme un instinct, le ramenait vers le lieu glorieux où il lui semblait que devaient rester encore les tracas de ses aspirations lyriques et les échos du grand cœur dionysiaque. Viva il forte! La gondole rasa le flanc du palais des Doges, massif comme un monolithe fouillé par des ciseaux habiles à trouver des mélodies comme les archets des musiciens. De toute son âme renaissante, il embrassa cette masse. Il réentendit le son de sa propre voix et l'explosion des applaudissements. Il revit l'énorme chimère ascellée au buste couvert d'écailles splendides, s'allongeant noirâtre sous les énormes volutes d'or. Et il se figura que lui-même oscillait sur la multitude comme un corps concave et sonore habité par une volonté mystérieuse. Il se disait: créé avec joie, mais c'est la tribu de la divinité. Il est impossible d'imaginer au sommet de l'esprit un acte plus triomphal. Les paroles mêmes qui le signifient ont la splendeur de l'aurore. Il redisait à lui-même, à l'air, à l'eau, à la pierre, à l'antique cité, à la jeune aurore: créé avec joie, créé avec joie. Lorsque la proue passa sous le pont et entra dans le miroir de lumière, une respiration plus libre lui rendit, avec son espérance et avec son courage, toute la beauté et toute la force de sa vie antérieure. Trouve-moi une barque, Zorzi, une barque qui sorte en pleine mer. Il lui fallait un souffle encore plus large. Le vent, l'air salin, l'écume, la voile gonflée, le beau pré pointé vers l'horizon immense. Allez à la Venezia, Marina, trouve-moi une barque de pêcheur, un bragozzo de Chioggia. Il remarqua une grande voile rouge et noire qu'on venait de hisser à l'instant même et qui palpitait en prenant le vent, superbe comme un vieil étendard de la République avec le lion et le livre. Allez, celle-là, celle-là, il faut la rejoindre, Zorzi. Dans son impatience, il agitait la main pour faire arrêter la barque. Crie-leur de m'attendre. L'homme de la rame, échauffé et ruisselant de sueur, jeta un cri d'appel aux hommes de la voile. La gondole filait comme un sandalo dans une régate. On entendait haleter la robuste poitrine. Ce brave Zorzi! Mais Stelio s'y haletait comme si se fût agi d'atteindre sa fortune, un but heureux, la certitude d'une royauté. Se manda in maniera, dit le rameur en frottant ses mains brûlantes, avec un rire franc qui parut le rafraîchir tout entier. Varde, que c'est extravaganza! Le geste, le ton, la malice populaire, les faces étonnées des pêcheurs qui s'avançaient sur le plat-bord, les reflets de la voile qui faisait l'eau sanglante, l'odeur cordiale de pain qui sortait d'un four, l'odeur de la poix qui commençait à bouillir dans un chantier voisin, les voix des ouvriers qui se rendaient à l'arsenal, toute l'émanation forte de ce quai où l'on sentait encore les anciennes galères pourries de la Sérénissime et où résonnait sous le marteau les cuirasses des navires de l'Italie nouvelle, toutes ces choses rudes et saines éveillèrent au cœur du jeune homme une allégresse qui éclata dans un rire. Il riait avec le rameur contre le flanc rapiécé et goudronné de ce bateau pêcheur qui avait l'aspect vivant d'une bonne bête de travail à la peau sillonnée de rides, d'excroissance et de cicatrices. Cosa vorla? Demanda le plus vieux des marins en inclinant vers les rires sonores sa face barbue et bâclée, où il n'y avait de l'éclair que des poils blanchis et les yeux gris entre les paupières rebroussées par les vents saumâtres. Cosa comandella, patron? La grande voix battait et claquait comme un étendard. Eh, paron, vorda montar a bordo, répondit Torsi. Le mât craquait, vivant depuis le pied jusqu'à la paume. Quel montar pour, que non l'a une autre parole, répliqua le vieux simplement. Et il alla prendre l'échelle volante. Il revint l'accrocher à mi-poupe. Elle était faite de quelques chevilles vermoulues et d'un seul brin de bitor tout osé. Mais elle aussi, comme tous les détails du grossier bateau, parut au jeune homme une chose extraordinairement vivante. Lorsqu'il y mit le pied, il eut honte de ses bottines vernies. L'épaisse main calleuse du marin, tatouée d'emblèmes bleuâtres, lui vint en aide, le hissa d'un seul coup sur le pont. « Le raisin et les figues, Zorzi !» De la gondole, Zorzi lui tendit le plat de pampres. « Que vade in tanto sangue ?»« Et le pain ?»« Gavemo al pan caldo !» dit un marin en soulevant une grande miche blonde et ronde. « Apanaga vanag forne !» La faim devait lui donner une saveur délicieuse. Il trouvait rassemblée toute la bonté du froment. « Servo sao, paron ?»« E vento in pope !» s'écria le rameur. prenant congé. Or ça, la voile latine se gonfla, couleur de pourpre, avec le lion et le livre. La barque courut s'aborder pour prendre le large, ayant le cap sur San Servolo. Il sembla que la rive s'arquait pour la décocher. Dans le sillage s'entremêlèrent, l'un glauque et l'autre rose, les deux fils de l'eau coupés qui formaient un tourbillon opalin, puis changèrent, prirent alternativement toutes les couleurs, comme si le bouillonnement à la proue était un arc-en-ciel fluide. Poggia ! Le bateau vira de bord. Un miracle le surprit. Les premiers rayons du soleil transpercèrent la voile palpitante, foudroyèrent les anges élevés sur les campaniles de Saint-Marc et de Saint-Georges-Majeur, incendièrent le globe de la fortune, couronnèrent de fulgurations les cinq myrtres de la basilique, et Venise Anadyomène domina sur les eaux avec toutes ses gazes déchirées. À la gloire, au miracle! Un sentiment surhumain de puissance et de liberté gonfla le cœur du jeune homme à l'instant où la brise gonfla la voile pour lui transfigurer. Dans la pourpre de la voile, il se vit comme dans la splendeur de son propre sang. Il lui sembla que tout le mystère de cette beauté réclamait de lui l'acte triomphal. Il eut conscience qu'il était capable de l'accomplir, créer avec joie, et le monde fut à lui.